Marc chapitre 2. Vous voyez au verset 5, Jésus voyant leur foi dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc vous savez que c'est le récit d'un homme qui descend à travers le toit de la maison à Capernaum sur un brancard, enfin sur des branches et avec des cordes. Il y a des bonhommes au-dessus qui ont fait un trou dans le toit et qui le descendent. Et devant Jésus. Alors, prenons le texte là où il était, au début, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, c'est de Pierre, hein, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, ce que Dieu le Père voulait qu'ils disent, hein, la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Bon, ça c'est un récit extrêmement important, c'est au début du ministère de Jésus. Le miracle, bien sûr, de marcher, de sortir avec... son tapis, sa litière, si vous voulez, misérable, parce que j'ai vu ça en Afrique, vous savez, il y en a des gens misérables, hein. Ils n'ont pas la belle civière, la belle ambulance, hein. C'est un grand luxe ici, un pont, à tout bout de champ. Et pratiquement, il est sorti avec ça devant tout le monde, bien sûr, tout le monde s'est écarté, mais ce qu'il y a, c'est que quand il a avancé, c'est avancé vers Dieu, et les anges se sont écartés. Et se sont réjouis. C'est surtout ça. Il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a ce qu'il y a dans le monde céleste, dans le monde invisible. Les anges étaient heureux de voir un homme pardonné et de voir le Père lui tendre ses bras. Et oui, ça dépend ce qu'on veut voir quand on lit le texte, mes amis. Mais mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et regardez, voyons leur foi. Au verset 10... C'est un verset extrêmement important. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Donc le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. On reviendra à Daniel après. Mais on va aller un peu dans les autres textes. Vous allez voir qu'il y a des choses à percevoir. Dans Matthieu, au chapitre 9, verset 8. Matthieu, c'est avant Marc. Matthieu, chapitre 9, verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui donna aux hommes un tel pouvoir. Bon. Reprenons, c'est le même scénario quasiment que dans Marc. La maison de Pierre, j'ai été voir à Capernaum, hein. La maison de Pierre, on le descend. D'ailleurs, l'Église catholique a fait une espèce de cour suspendue en béton avec des briques de verre. Et il y a un balcon, si vous voulez, un garde-corps. Et on peut regarder la maison du dessus. Il y a un escalier. C'est pas mal comme idée. L'architecte a fait ça. Donc on est dans la position de ceux qui ont descendu le malade et le pécheur. Et ça fait beaucoup réfléchir de se dire que Jésus était en bas et qu'il était là et qu'il attendait le bonhomme. Il savait qu'il allait arriver. Jésus est Dieu. Et quoi qu'il arrive, même si toute la foule était là pour l'empêcher, il savait qu'il allait arriver. Jésus sait quand un pécheur arrive tout près de lui. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les montagnes, les empêchements, Jésus sait déjà quand le pécheur arrive devant lui. N'oubliez pas ça. Ça nous concerne aussi. Donc, regardons... Prenons le début du chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ?» Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la foule fit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui donna, a donné aux hommes un tel pouvoir. Aux hommes, au pluriel. Est-ce qu'il s'agit de Jésus? Est-ce qu'il s'agit de Jésus dans le texte? C'est là qu'il faut se poser les questions sur le texte. Au chapitre 9, verset 2, vous voyez bien que, voyant leur foi. En Marc, chapitre 2, verset 5, voyant leur foi. Jésus regarde le cœur de ceux qui entourent. Regarde la foi. Les amis, c'est quoi la foi alors? Le pouvoir donné aux hommes. Qui a donné aux hommes un tel pouvoir? Est-ce que Dieu aurait donné à travers la foi un pouvoir? Est-ce que Dieu voit dans la foi un pouvoir venu du ciel? Alors, c'est là qu'elle se trouve la vraie question. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Tout chapitre 11 de Hébreux parle de la foi. Bien sûr, on ne va pas lire tout le chapitre. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on peut espérer, si ce n'est d'être pardonné par son péché, d'être réconcilié avec le Père? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Des sous dans le porte-monnaie, de toute façon, quand on aura fini de payer les factures, il n'y en aura encore plus. La santé, elle va venir un certain temps, et puis après on finira quand même. Comme un vieux bébé, une vieille tarte, et puis la santé s'en va. Mais le salut, il reste. La ferme assurance, quelque chose de ferme qui reste, qui est céleste, qui est éternel, c'est le salut. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est la pleine transformation en gloire. C'est la participation à l'héritage des saints. Pour toujours. C'est le péché d'Adam et Ève, balayé une fois pour toutes, liquidé. Ce fléau de l'humanité. Le pire des catastrophes qui puissent être arrivées. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien sûr, le paralytique qui commence à marcher, on ne le voyait pas. On ne voyait pas. Une démonstration. Il y a des signes qui sont donnés pour démontrer que Dieu est là et agit. Mais ce qu'il y a, les choses qu'on espère, c'est la plus grande, c'est le salut. Combien de gens se trompent s'ils espèrent autre chose que le salut? Et demande à Dieu des tas de choses périphériques. S'ils vont en enfer, à quoi ça sert de les avoir obtenues, les choses périphériques? Jésus l'a dit, ne craignez pas comment vous serez habillés, vêtus, etc. Craignez ce qui peut vous conduire en enfer, à Géhenne. C'est quoi? C'est le péché, évidemment. Alors, regardons qu'est-ce que c'est que la foi. Verset 6. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, quand Jésus a vu ce bonhomme descendre, il avait un plaisir fou. C'était de voir la foi des quatre gars qui passaient la tête, et peut-être même des autres. Hein? Un plaisir, mais un plaisir divin. C'est la foi qui lui est agréable à Jésus et à son Père. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, regardez bien ce verset. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Quand les quatre gars ont descendu le malade, ils savaient que Dieu était là. Ils savaient que Dieu était là. La clé de la compréhension du texte, c'est ça. Dieu est là en Jésus de Nazareth. Pour les autres, c'est un prophète, c'est un guérisseur, c'est un thaumaturge. Pour ceux-là, ils savent que Dieu est là en Jésus de Nazareth. La foi est bénie pour celui qui sait que Dieu est là. Jésus a dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Matthieu 28, 18 à 20. « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, est là. Sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. C'est la foi de Dieu ici, ikenung, ici présent, agissant, plus présent que le tas de pierres là et que ça, et que moi. plus présent, totalement présent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà la clé. Voilà pourquoi, cette fois-là, des quatre gaillards, peut-être même plus, qui descendent de malade, plaient à Dieu. Ils s'approchent de Dieu. Ils sont venus, ils auraient fait un trou, même à travers la roche, à la dynamite s'il avait fallu. Ils veulent aller auprès de Dieu et présenter leur ami auprès de Dieu. Pour son salut. Pour son salut. Et sa guérison. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense la foi qu'il le reconnaît comme Dieu. Qui est donc Jésus? C'est ça la question qui se passe à ce moment-là. Dans Luc chapitre 5, allons voir. Luc chapitre 5. Verset 18. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et le placer sous ses regards, sous les regards de Jésus. Quand vous avez un ami qui travaille avec vous, quand vous avez un voisin, les amis, quand vous avez un conjoint, un enfant, est-ce que vous voulez le présenter sous les regards de Jésus? Si vous voulez le présenter sous les regards de Jésus, les amis, je parle autant pour moi, mais je m'adresse à vous. Si vous voulez le présenter sous le regard de Jésus, votre voisin, votre ennemi, votre ami, votre conjoint, ben c'est que Jésus est là. C'est que Jésus a les yeux là. C'est pas de la théorie. Nous ne sommes pas dans le romancé. Nous ne sommes pas dans le virtuel. La foi en Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour mes péchés, c'est la foi en Jésus présent ici. Quand je vous parle, c'est parce que je sais que j'ai pas voulu aller dormir et scier du bois. À 3h30, quand j'ai été dormir, j'avais le désir que vous soyez sous ses regards maintenant, et moi avec. Autrement, ça ne sert à rien. Je baratine, je fais le malin, pour rien. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Devant Jésus, sous le regard de Jésus. Donc Jésus est là. Mais Jésus, quel Jésus? Si vous reprenez le verset de Hébreux 11, verset 6, Dieu est là. Il faut que je sois certain, Dieu est là. Voyant leur foi que Dieu est là, voyant leur foi que Jésus est Dieu, voyant que Dieu est en plénitude en Jésus de Nazareth, comme dit Paul dans Colossiens, chapitre 1, eh bien, voyant leur foi, Jésus répond à la foi. À cette foi-là, il répond. Pas aux autres fois. Les fois, là, ils sont comme de la confiture. Moins on a de confiture, plus on l'étale, pour que ça ait du goût, surtout de la tartine. Cette fois-là, Dieu n'y regarde pas. Mais cette fois-là, il y regarde. Regardez bien. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ils ont mis un pécheur en présence du Sauveur. Ils ont mis un pécheur en présence du pardonneur, de celui qui a le pouvoir de pardonner. Et quand vous regardez dans Luc, à la fin, quand Jésus est sur la croix, il dit, « Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous voyez le centurion qui dit, « Celui-ci est le fils de Dieu. » Vous voyez le brigand qui a insulté jusqu'à midi, de 9h à midi, il a insulté, comme l'autre, tous les deux ils insultaient. À midi, il change de point de vue. Il dit mais, à son copain, « Mais il ne mérite pas d'être ici. » Vous regardez tous les textes et vous voyez qu'il a changé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que Jésus n'est pas comme lui. Il a posé un autre regard sur Jésus. Il a croisé le regard de Jésus. Et il a vu que le regard de Jésus, la personne de Jésus, n'est pas comme les autres. Tous ceux qui crient, les scélérats alentour, et les lâches, et son copain, lui. Il a vu en Jésus la présence de Dieu. Et il lui dit, est-ce que tu veux bien me prendre dans ton paradis aujourd'hui? Et pourtant, pendant 3 heures, il a craché du venin sur Jésus. Et Jésus l'avait dit, dans Matthieu 11, il avait dit, tous les blasphèmes contre le Fils de l'homme vous seront pardonnés. Et celui contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Donc sur la croix, à un moment donné, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Et il a dit à Jésus, est-ce que je peux aujourd'hui être dans ton paradis et être pardonné? Il avait pourtant blasphémé le Fils de l'homme, Jésus. Et Jésus l'avait dit, tout ça, ça vous sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait basculer le cœur pour recevoir le pardon. Même le pire, le plus crapuleux, se rend compte, sous la puissance du Saint-Esprit, que Jésus le regarde et que Jésus a le pouvoir de lui pardonner. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, vous voyez, les quatre le descendent sous ses regards. C'est-à-dire, il y a une démarche active, une démarche de foi. Ils savent qu'il faut s'approcher de Dieu parce que Dieu existe. Hébreux 11:6. Donc, Dieu est là, en Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit que, regardez un peu plus loin, au verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner péché si ce n'est Dieu seul? Pourquoi? Parce que la foi classique, c'est Dieu est loin. Il est au ciel, il n'est pas ici. Il est plus loin. Dieu est loin, oui, il est grand, il a tout créé. Mais ça, c'est la foi de l'incrédule, ça. C'est la foi de l'incrédule, qui ne sait pas que Dieu est là, à côté de lui. Qui a, psychologiquement, émotionnellement, créé une distance. Comme ça, il arrange ses bidules à lui, et puis il va vers Dieu quand il a besoin. Puis de toute façon, qui ne croit pas vraiment que Dieu est son interlocuteur privilégié, de toujours. L'homme a l'art, depuis le péché d'Adam et Ève, de créer une distance. Il se cache. Il se cache de Dieu. Attention à nous. Attention à nous, les amis. Pour tout le monde, Dieu existe. Même pour le diable. Dans Jacques, les démons aussi croient, mais ils tremblent. Pour tout le monde, Dieu existe. Pour l'autre là, dans le bistrot là, dans la semaine qui m'a dit Jésus à schizophrène, je l'attends en tournant. Il m'avait déjà coincé sur le marché à Virton. En m'appelant Monsieur l'abbé, ben oui, j'étais prêt d'être à bien haut pour me faire fumer. Et je le regardais, je ne bronchais pas. Et les autres, il y en a toujours pour s'amuser dans la foule. Et puis il se rétracte et il dit, non, excuse-moi Jean. Je sais que toi, tu es un homme de Dieu. Il s'est arrêté. Je n'ai fait que de le regarder et pas bouger. Parce que, pourquoi, quand au moment où il me disait ça, pour moi, je disais, Seigneur Jésus, interviens. Interviens, Seigneur Jésus. Comme pour le paralytique, Seigneur Jésus, interviens. S'il te plaît, interviens. Je ne doute jamais que le Seigneur est là, jamais. Dieu est loin pour les incrédules. Il est au ciel, il est au bout de l'océan, il est à Paris, mais il n'est pas ici. Ça me permet de rester ce que je suis, tout compte fait. C'est ça le grand, la grande utilité. Ça me permet d'aller chez lui comme chez le dentiste, comme chez le chirurgien, quand j'ai besoin. De le mettre dans ma poche si possible. Je veux faire quelque chose de bien, comme ça je vais lui plairai. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne peut être qu'à une place, devant moi, à côté de moi. Il ne peut être qu'à une place, dans sa gloire. Dieu est présent. Cessons avec cette idée qu'il est autre part. Dans Matthieu chapitre 1, verset 23, comment appelle-t-on Jésus ? Dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, comment appelle-t-on Jésus? Et oui, c'est tout simple. C'est tellement simple que même chez beaucoup de chrétiens, on n'y fait pas attention. Moi y compris. C'est pour ça qu'à des moments, je ne sais pas dormir. Seigneur, je vis comme un cancre, je suis superficiel, je ne vais pas dormir. Seigneur, remets-moi dans tes profondeurs. Remets-moi dans ta lumière. Parce que j'ai l'art de couper le courant régulièrement. Donne-moi ton intelligence, pas ma stupidité. Eh bien, regardez, Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si c'est Dieu avec nous, c'est où ça? C'est où ça, Dieu avec nous? Et si vous regardez dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, Ésaïe. Les amis, je vous ai dit que je voulais préparer Pâques, l'avenue de Pâques. Mais Pâques, c'est pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, déjà, c'est pas n'importe quoi. Chacune de mes nuits, chacun de mes jours, c'est pas n'importe quoi, Dieu est là. On comprendra mieux Pâques lorsqu'il s'agira de réfléchir sur la croix de ce qui se passe là. Faut-il ne pas dormir pendant 3 jours? Je veux que cette fête, la fête de Pâques soit la vraie fête. Parce que vous voyez les pressions sur Israël, vous voyez ce qui se passe. On n'est pas loin du grand rendez-vous. Il est temps de se rendre compte qu'il faut mettre les choses au point pour chacun de nous. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. C'est Alma en hébreu. C'était traduit dans la Bible de Septante au 2e, 3e siècle avant Jésus par Parthénos. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, quand nous sommes dans les récits de Jésus, Dieu est avec nous, Dieu est là. Il n'y a pas de petit Jésus. C'est beau les cassettes, les films, les CD, les DVD sur Jésus, Nazareth. Il y a des acteurs qui jouent très bien ça. C'est beau. Mais ce n'est pas le vrai Jésus, hein. Mettez pas Jésus de Nazareth de la Bible au même niveau que ce que vous voyez sur l'image. L'image est évocatrice. Le film est évocateur. Mais le vrai Jésus de Nazareth, le jour que vous êtes en face, vos fusils, ils sautent. Tout fait court-circuit s'il y a des fils qui sont mélangés. Alors, les amis, toute l'histoire de l'Évangile, c'est... Il y a un débat. Quand vous regardez bien dans la Bible, Jésus est devant Satan, dans le désert. Et Satan n'arrive à rien. Jésus est devant la faim. Dans le désert, multiplication des pains. Jésus est devant la maladie, le paralytique. Il est devant la mort, Lazare. Jésus est devant la tricherie des prêtres, des vendeurs au temple. Jésus est devant la tempête, pendant la barque. C'est presque la catastrophe. C'est la réalisation du psaume 107 et 104. Où l'Éternel agit et fait arrêter le mugissement des flots. Jésus est devant le péché du paralytique, le péché du centurion, le péché du brigand qui l'insulte, le péché de ses disciples, le péché de Judas, mais le péché du gentil, là, Jean, l'apôtre Jean, le péché de l'impulsif, Pierre. Hein? Jésus est devant le péché de mon péché. Il est devant ma maladie, il est devant mon portefeuille. Jésus est devant ma tricherie. Jésus est devant le diable qui me parle régulièrement. Jésus est devant ma stupidité, mon manque d'intelligence, ma superficialité à son égard. Et Jésus attend. Parce qu'il veut me donner le plein éblouissement, la parfaite connaissance de lui. Au-delà de tout ce que nous pensons, il est capable de faire en nous infiniment pour que nous connaissions la largeur, la profondeur, la hauteur, la largeur de son amour. Mais est-ce que je le désire? Ou si je ne le désire pas comme le paralytique, est-ce que des autres prient pour moi pour que ça se passe. Vous voyez les hommes qui ont fait cela, qui ont prié qui en est cet homme devant Jésus, ont été honorés dans leur foi. Honorés. La foi n'est pas vaine. Si vous priez, que vous relevez, que vous passez des heures pour prier quelqu'un qui est en Afghanistan, qui est en train de souffrir, qui devient chrétien, ou en Iran, ou je ne sais pas moi, chez les papous, ne croyez pas que les kilomètres comptent. C'est comme si cet homme, cette femme qui se convertit est à côté de vous. Et qu'entre cette personne et vous, il y a Jésus. Je m'adresse à Jésus pour lui. Les kilomètres ne comptent pas, ni l'heure. L'intercession est au-delà de tout ça, du temps et de l'espace. Elle est en face de Jésus, près de Jésus, pour celui qui souffre, pour celui qui doit être sauvé. Est-ce que nous intercédons suffisamment pour les âmes perdues, ceux que nous rencontrons? Est-ce que c'est un fardeau dans notre cœur pour nous? Mes amis, il ne faut pas se laisser aller à ce christianisme qui n'en est rien du tout, qui n'est pas la foi. Il faut sortir de la tranchée, les amis. Les soldats à Verdun sortaient de la tranchée, tant pis si les balles arrivaient sur eux. Tout le monde ne restait pas dans la tranchée. Il y avait le coup de clairon, il fallait sortir. Dans la foi, et à un moment donné, il faut prier, intercéder. Le premier travail. Il y avait un grand prédicateur anglais, je ne sais plus là comment on... Spurgeon. Spurgeon a prêché à des foules, il y a eu des tas de convertis. Ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Mais un jour, il avait demandé à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible qu'ils se convertissent tous? Et à cette personne-là, il l'a fait descendre un escalier en dessous de la salle. Et il y a plein de gens qui priaient, à tour de rôle, jour et nuit. Intercession. Et vous croyez qu'il a arrêté de prêcher et de prier? Non. Quand, à la fin de sa vie, il y a eu un laisser-aller dans tous ces chrétiens-là, un laisser-aller, il a fallu voter des choses très importantes pour que l'Église reste dans la parole. Ils étaient 1500 votés. Il y en a 5 ou 6 qui ont voté avec Spurgeon. Il était mis en minorité, comme une crotte de chat, par des chrétiens de Laodicée. Des chrétiens qui avaient repris goût à la tiédeur et à l'illusion d'être chrétien. Vous voyez que le christianisme est toujours soumis à ce combat. L'illusion d'être chrétien, et comme on croit que qu'en votant quelque chose dans une assemblée d'église, on a les pleins pouvoirs, eh bien on vote. Et on a mis Spurgeon dans les oubliettes. Toute parole de Dieu est un jour bafouée, comme les apôtres ont bafoué Jésus. Toute parole de Dieu est bafouée. Et ce Jésus de Nazareth me regarde en disant, je te pardonne. Mais attention, si je te rappelle demain, après-demain, toi, le fils prodigue, et que tu t'opposes, là, il n'y a plus d'issue pour toi. Jésus est très patient avec le christianisme d'aujourd'hui. Sur cette église en Apocalypse, regardez, il n'y en a qu'une en ordre. Elle a peut-être bien encore du mal en plus. Alors, nous avons besoin d'être en face de Jésus. Nous avons besoin que des autres nous descendent avec les cordes devant le Seigneur Jésus. Et ceux qui prient doivent savoir que Jésus est Dieu. Ce n'est pas le petit Jésus. Alors, regardons Luc. Luc, au chapitre 11. Donc, l'homme qui se croit seul, qui croit que Dieu est loin, se livre à Satan lui-même. Le chrétien qui croit que Jésus est inconscient des choses et est en touriste autre part et ne s'occupe pas de ses affaires personnelles est un chrétien qui se prépare à ce que Satan s'occupe de lui. Et nous donnons la possibilité à notre âme de nous échapper de l'amour de Christ. Nous donnons la permission à notre âme de prendre des audaces en face de l'amour de Christ, en face de l'autorité de Christ. Et nous sommes les perdants. L'évangile, ce n'est pas pour les perdants, c'est pour ceux qui donnent leur foi à Jésus tous les jours. C'est par la foi que nous gagnons, c'est par la foi que nous sommes victorieux, parce que nous restons sous le regard de Jésus, qui est Dieu. Jésus ici et maintenant. Luc 11, 52. Le gros problème de tous ces gens qui ont le nom de Dieu en bouche. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteur de la loi. Donc, à des gens qui parlent de Dieu, ceux qui vont l'amener à crucifier. Et dans Zacharie, mais qui sont ceux qui t'ont percé les mains et les pieds, là, quand il va revenir? Dans Zacharie, chapitre 13. Mais ceux qui m'aimaient, répondra Jésus, devant tout le monde, ceux qui m'aimaient. Mais je ne voudrais pas, en tout cas, avoir creusé encore un peu le plus les trous des mains de Jésus et des pieds. Je ne voudrais pas. Pourtant, je l'ai déjà fait. Comme eux. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous n'avez pas empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous avez empêché. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas entré vous-même. Vous n'êtes pas en présence de Dieu quand vous voyez Jésus de Nazareth. Vous n'êtes pas en présence du Père du ciel. De qui vous vous réclamez? Quand je suis là, je vous parle. Je guéris le paralytique. Et que je lui pardonne ses péchés. Vous n'êtes pas en présence. Vous n'avez pas la clé de la science. Vous n'êtes pas rentré pour connaître Dieu. Vous passez à côté. Et vous avez empêché tous les autres d'y rentrer. Par vos attitudes, vos invectives, votre contrôle, les menaces, etc. Vous voyez, les hommes religieux. Le thème du chapitre 11, c'est la méchanceté de l'homme, c'est pas que rien que des hommes religieux de l'époque. Regardez au chapitre 11, au verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, il parle à ses disciples, il parle à tous ceux qui sont là. À moi. À vous. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le paralytique, à la Pentecôte, était là, pour recevoir le grand cadeau, le grand paquet, pour être scellé à jamais. Regardons Luc, chapitre 12, verset 8. Je vous ai promis qu'avant Pâques, je vous montrerai le Jésus de Nazareth, le vrai Jésus à travers les évangiles, pour que Pâques ne soit pas encore du bidon, parce qu'en son retour pour moi, je pense, n'est pas loin. Et il ne faut pas que ce soit du bidon, il faut de l'huile dans la lampe, il faut voir clair. Luc 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Eh bien, les quatre gaillards qui ont descendu le paralytique ont montré qu'ils avaient foi en Jésus. Peu importe les docteurs de la loi, de la science, de la fausse science, ils ont descendu le gars. Ils ont confessé leur foi en Jésus de Nazareth. Ils ont agi. Marie de Magdala aussi. J'ai été chercher tous les disciples. Ils ne voulaient pas aller voir si Jésus était ressuscité. Beaucoup. La femme qui a versé le parfum sur sa tête devant les docteurs de la loi pour sa sépulture. C'était mis dans Ésaïe. Il fallait. Il l'a dit. Dieu l'a dit dans Ésaïe. Vous ne m'avez pas honoré. Vous ne m'avez pas parfumé pour ma sépulture. Eh bien, elle l'a fait. Elle l'a accompli. Elle l'a connu. Dieu. Dans son sacrifice suprême pour nous. Elle l'a confessé en versant le parfum. Regardons dans Luc au chapitre 14, verset 35. Luc 14, verset 35, la deuxième partie du verset. Verset 35, 14, verset 35, la fin du verset. Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier, donc c'est du sel. Hein? On le jette dehors. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si j'ai des oreilles, est-ce que je peux dire au soir, j'ai entendu Jésus me parler aujourd'hui? J'ai entendu, Dieu me parler. Je me rappelle d'une personne très âgée à Avignon que je visitais régulièrement, qui avait refusé Christ pendant des années. Puis après, il m'a appelé. Eh bien, mais c'est bizarre, on dirait que Dieu vous parle, vous. Alors je réponds, eh bien, lisez la Bible, il vous parlera aussi. Mais c'est les oreilles du cœur, c'est les oreilles de mon âme, de reconnaître, d'accepter que Dieu me parle. Qu'est-ce qu'a dit le vieux prêtre Élie qui acceptait ses fils corrompus dans le service de Dieu? Il a dit à Samuel, tu diras quand Dieu t'appelle, parle, ton serviteur t'écoute. Est-ce que nous osons dire ça au Seigneur Jésus? Parle, Seigneur Jésus, je suis ton serviteur, je t'écoute. Alors les vraies oreilles vont s'ouvrir. C'est évident. Que celui qui a des oreilles entende. Dans Luc 17, verset 20, tout est une question de vraie conversion. Or, moi je vous le dis, je pense que c'est le même débat pour moi comme pour tout le monde. Nous avons une marque de péché d'Adam et Ève en nous qui nous rend malhonnêtes à l'égard de Jésus. On revient toujours dans la confiture du péché. On croit que ça a un bon goût. Il y a un combat spirituel, c'est pour ça que Jésus a dit, c'est les violents qui emporteront le royaume des cieux. Il faut faire violence à son péché, pas aux autres. Hein. Luc chapitre 17, verset 20. On va en commencer au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ben oui, hein, Jésus de Nazareth qui est là dans la maison de Pierre, et le trim-tram alentour, puis il guérit des malades, ils chassent des démons, multiplient le pain, mais tout ça c'est vite oublié. Ils étaient étonnés, ils étaient perplexes. Ils ne sortaient pas de l'incrédulité. Mais regardez bien, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le roi de la sainteté est avec nous. Le roi de la sainteté est avec nous, sommes-nous ses sujets? Y a-t-il le royaume de Dieu dans ma maison? Y a-t-il le royaume de Dieu dans ma famille? Y a-t-il le royaume de Dieu dans mon église? S'il est le roi, que je l'écoute, que j'obéis, oui. Autrement, comédie suprême. Église de Sardes, hein, dans l'Apocalypse. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Église d'Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour. Repends-toi d'où tu es tombé. Alors, allons voir dans Éphésiens. Donc, rappelez-vous, si vous reprenez les textes de Matthieu, de Marc et de Luc, que chaque fois, la conclusion c'était « Comment se fait-il que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes ?» Bon, au début, je me dis, pendant des années, ils considèrent Jésus comme un homme qui a beaucoup de pouvoir, thaumaturge. Mais non, j'ai repris ce texte cette nuit, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible que toute ma vie, je vais en rester à cette idée qui vient spontanément. Seigneur, où est ce pouvoir? J'ai été voir dans l'hébreu. Le pouvoir, c'est la foi. Dieu, devant ma foi, ouvre la porte et bénit. La foi est bénie, la vraie foi. Parce que je m'approche de Dieu, pas d'un Jésus que j'ai édulcoré. Je m'approche de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me mets en présence de la parole et que je m'adresse à Dieu au nom de Jésus ou à Jésus, est-ce que je sais que je parle à Dieu, le Créateur Tout-Puissant du ciel et de la terre, devant qui je dois rendre compte de tout et que je vais voir dans sa gloire? Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je dois aujourd'hui croire sans que mes facultés sensibles, l'oreille, les yeux, me donnent des manifestations. Parce que vous savez, on peut encore avoir eu des visions, on peut avoir des signes. Mais on est tellement oublieux, on est tellement, je ne sais pas moi, on bâcle tout, on piétine tout. On piétine tout. Même les plus belles choses de sa vie, on les piétine. Souvent, ça arrive. Et donc, c'est pas le plus important, c'est pas de voir Jésus aujourd'hui ou demain, soir ou pendant la nuit, d'avoir une manifestation glorieuse de lui. Regardez, sur le mont de la Transfiguration, quand Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus dans sa gloire, ils l'ont quand même trahi. Alors, nous ne sommes pas dans des églises qui réclamons des signes exceptionnels, nous sommes dans des églises où nous réclamons une vraie foi, un don de la foi. Alors, Éphésiens, mais d'où vient donc la foi? De nous? Oh ben ça, on va encore attendre des siècles. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, donc un cadeau immérité. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous et en Jésus-Christ. Oui, il y aura une manifestation visible. C'est Isaïe 25, là, à Jérusalem, le grand banquet de vin vieux, où le voile de la mort, de la maladie est tiré sur toutes les nations. Oui, ça aura lieu. Hein? Nous verrons l'infinie richesse de sa grâce, mais visiblement, d'accord. Mais d'abord la foi, après la vue. Verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, donc les actions, etc. Par ma psychologie, par les tas de livres que je lis, etc. Afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La bonne œuvre, la bonne action, c'est la foi. Le bon engagement d'une conscience pure, c'est la foi. C'est un don que je reçois en moi. Et je peux m'adresser à Dieu en disant, Seigneur, à cause de la foi que tu m'as donnée, Seigneur, j'ose te parler de telle personne qui est malade. Peux-tu la guérir, soulager son mal? À cause de la foi que tu m'as donnée, Seigneur, peux-tu un jour manifester ton pardon à cette personne? À cause de la foi que tu m'as donnée, Seigneur, peux-tu changer la vie de ce chrétien qui a eu ce fond de culotte à l'église depuis 30 ans, 15 ans, et qui ne change pas? Peux-tu, Seigneur, à cause de la foi que tu m'as donnée, quand je me regarde dans la glace, changer ce trait de caractère pourri, foutu que j'ai depuis que je suis né? Peux-tu, Seigneur, à cause de la foi que tu m'as donnée, ce foutu fric auquel je tiens, qui m'empêche de te servir, peux-tu me donner la libéralité que toi tu as dans ton cœur, dans ton âme, pour tous les hommes? Peux-tu casser toutes les digues, les murs que ma famille et moi-même j'ai construits qui font que je suis dans l'avarice et l'égoïsme? Peux-tu? À chaque question, Jésus répondra, oui, je le peux. Mais est-ce que tu le veux, toi? Il répondra, Jésus, à moi, est-ce que tu le veux, toi? La foi demande mon plein acquiescement. La foi est un don, mais la foi n'aboutit et n'a de fruit que si je m'humilie et j'accepte ce que Jésus veut faire comme œuvre merveilleuse en moi, de briser tous les péchés. Dieu n'a point de mépris d'un cœur contrit et humilié. Avant d'être humilié, je m'égarais, psaume 119. Je me réjouis des eaux que tu broyas, dit David. Sommes-nous broyés? Dans Luc 24, je veux finir. Vous pensez bien que, arrivé à Pâques, avec une idée claire sur Jésus, ici et maintenant, et sur ce que je dois être, mais Pâques, ça va être Pâques, hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et regardez ce qui s'est produit. Et ce que je souhaite, c'est le vrai trésor. Quand j'ai cru, j'ai lu l'évangile à 16 ans, j'ai pataugé pendant 26 ans. Parce que je n'ai jamais trouvé alentour de moi des gens m'expliquer l'écriture. Je suis passé par le séminaire catholique, j'ai été prêtre, etc. Et puis, je me suis dit, mais il n'y en a pas un qui a la foi, qui a reçu le Saint-Esprit, donc si je meurs demain, j'ai rien foutu. J'ai tout raté. Seigneur, pourquoi ? Alors, dans 2 Corinthiens 13:8, un jour je tombe sur ce verset. Il n'y a de puissance que dans la vérité. Hors de la vérité, il n'y a point de puissance. Alors j'étais là comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, ben oui, tout ce que j'ai reçu, c'est mélangé de tout ce que tu dis et de tout ce que moi j'ai ajouté, j'ai lu, de ce qu'on m'a enseigné dans l'Église catholique. Mais ça ne va pas. Je dois être dans la vérité et il n'y a rien que la vérité pour avoir la puissance. Alors je reconnaîtrai des gens qui deviendront chrétiens quand je leur parlerai. Alors je verrai des gens sauvés qui pourront continuer et je pourrai mourir en paix comme un serviteur qui a donné la bonne nourriture. Le jour que j'ai compris ça, les amis, vous vous rendez compte, 16 ans plus 26, 42 ans. 42 ans, il faut bien reconnaître qu'on peut faire mauvais chemin, même pendant 50 ans. Il faut s'humilier. Et c'est par la parole de Dieu qu'on s'humilie. Luc 24, après Pâques cette année, parce que je vois que le temps d'Israël s'approche, le temps des nations, la fin du temps des nations s'approche. Je vois que Pâques est important et que Pâques nous donner un cadeau. Luc 24. Verset 5. Verset, saisies de frayeur, les femmes, hein, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, les anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Oh. Donc Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est où? Mais où est-ce qu'il est, le vivant? Il est ici. Il est ici. Vous voyez le gros problème? Puisque je ne vois pas mes yeux. Mais Jésus est vivant, il est ici. Donc si je m'adresse à Jésus, prenez le cas dans le temple. Il y a le paralytique devant le temple, aîné. Il ne sait plus marcher. La famille ou toute la tribu le met là pour ramasser des sous. Et il en ramasse. Il nourrit sûrement tout le clan avec. Les gens vont là, ils ont de la culpabilité, ils vont vers Dieu, il y en a toujours pour donner. Hein? Et ils ont des sous, de l'or, ils vont mettre dans le temple, dans le trésor. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que Pierre et Jean, eux, ils vont sans argent. Ben oui, il n'y a plus besoin de payer pour Dieu pour être sauvés. Ils ont été sauvés par le sang de Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. En plus, donc il n'y a pas besoin d'aller faire des cadeaux à Dieu, sauf la vraie foi. Eh bien, on va voir la vraie foi. Ils le regardent et disent, nous n'avons rien, ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire, pour le paralytique, qu'entre deux, Pierre et Jean, il y a le Christ. Et Pierre et Jean viennent de dire, Jésus est avec nous. Et on sait qu'il t'aime, on ne va pas te laisser là encore une fois de plus. On va lui demander d'un autre cœur, Seigneur, tu ne veux pas le guérir? Et tu ne veux pas lui donner la vraie foi? Pierre et Jean ont osé demander à Jésus. Et ils avaient la foi. Parce que Jésus, invisible, mais Jésus vivant, était là. Ils étaient à trois rentrés dans le temple, à rencontrer. Pouvez-vous dire demain et ou ce soir que vous êtes tout seul? Non. Regardez bien. Si vous dites que vous êtes tout seul, c'est que vous voulez bien. Alors vous êtes mort et vous vivez avec les morts, avec tous ceux qui ne croient pas que le Christ est là, est vivant. Voilà la question. Si nous croyons que Jésus est vivant et mort pour nos péchés, eh bien, il y a quelque chose qui, automatiquement, il y a un processus d'éclaircissement, de buée qui part des yeux. Et regardez dans Luc, au chapitre 24, verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est Jésus qui s'approche, hein? Tout chrétien et tout pasteur, hein? Petit pasteur Agandry, je vais vous dire, hein, si Jésus ne venait pas souvent auprès de moi, hein, je suis un minable qui souvent le laisse de côté. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste, ou si triste. Si demain, vous allez au travail tout triste, les amis, si vous allez coucher tout triste, réfléchissez sur ce texte. Est-ce que vous pouvez être triste si vous savez vraiment que le Seigneur, le Dieu puissant de gloire, qui pardonne les péchés, qui mettra la gloire sur cette terre, qui effacera toutes les souillures, toutes les crapuleries, toutes les traces de la mort et du péché, ce Seigneur de gloire, est-ce que j'ai le droit d'être triste? Si je m'écoute, oui. Si j'aime bien de me plaire dans mon cambouis, dans mon incrédulité, dans ma nugrette, dans mon cœur incirconcis, oui, je serai triste. Pourquoi est-ce que Paul dit dans Thessaloniciens, à la fin, soyez toujours joyeux, rendez grâce sans cesse? C'est clair, vous avez l'explication. C'est le fruit du Saint-Esprit, c'est la réalité d'une bonne relation avec Christ, le Tout-Puissant. Dans Luc 24, au verset 25, Jésus leur dit, et il parle à ces deux gaillards-là, des disciples d'Emmaüs, j'étais sur le chemin à la vache, j'ai essayé de voir où était Emmaüs et Jérusalem, et j'ai regardé le chemin, les collines et tout, c'était, il faut quand même être en forme, hein, pas trop vieux, hein. Eh bien, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, qu'il entrât dans sa gloire? Je pense que nous avons un cœur qui est lent à croire. Il faut être honnête, il faut le dire. Il faut le dire au Seigneur. Seigneur, guéris-moi tous les jours. Seigneur, change mon cœur. Pas pour faire le principe de la ritournelle. Et parce que il faut être humble, c'est le péché nous colle, et vraiment il nous colle. Il faut le décoller. Et la seule façon, c'est d'être humble, de le déposer au Seigneur. Vous qui ployez sous le fardeau, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Il faut être dégoûté de son péché pour le déposer. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entrât dans sa gloire, commençant par Moïse et tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. La parole de Dieu est une clé pour être toujours bien branché avec le Seigneur Jésus. Les lampes qui marchent ici, qui fonctionnent, et la centrale nucléaire qui a Tianche, ah oui, entre, il y a des poteaux avec des fils. Il y a des fils. Mon fil avec Jésus-Christ, c'est la parole. Sans le fil, il n'y a pas de lumière. Je suis obscurité. Une sacrée obscurité, les amis. Voilà, les amis, vous regardez bien la fin du Luc 24, verset 45, « Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. » J'ai supplié le Seigneur, supplié. Je me rappelle, une fois au séminaire, on m'appelle, le directeur m'appelle. Et je suis dans son bureau, il me dit, Jean, quelqu'un t'a vu dans la foule, dimanche passé, et a dit, vous demanderez à ce jeune homme si il restera fidèle au Seigneur. Si il dit qu'il reste fidèle au Seigneur, je lui paye ses études. 50 théologies, hein. Je n'ai jamais rencontré cette dame. J'ai dit à ce responsable, je suis venu ici parce que j'aime le Seigneur. Et même si je n'ai pas d'argent pour les études, je l'aimerai toujours. Je ne l'abandonnerai pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne me lâchera pas. Je lui ai donné ma main, et il ne va jamais me la lâcher. Il va me garder. Je dois lui dire ça. Oui, vous pouvez lui dire ça. Et vous savez, j'ai un grand rêve. J'ai un grand rêve. C'est de passer au moins 3 heures tous les jours avec Jésus dans sa parole, dans la prière. Parce que sans ça, je sais très bien que je lâcherai sa main. Et cette personne m'a dit, je te souhaite de pouvoir aboutir à cela. Et méfie-toi des passions. Les passions emportent le cœur loin de la parole de Dieu. N'écoute pas les passions, Jean. Écoute la parole de Dieu. Il y a des conversations dans la vie qui pèsent. Les 5 ans d'études ont été payés. Et je n'ai jamais rencontré la personne, je ne sais pas qui c'est. Les amis, c'est Dieu qui voit. J'étais sous le regard de Dieu. Et le paralytique, cette femme était une de celles qui a tendu une corde pour me mettre sous le regard de Jésus et dans sa parole. C'était une de ces femmes-là. Il y a des gens sur la terre qui peuvent nous aider. Il y a des gens qui aiment Jésus et qui peuvent descendre des cordes pour qu'on soit plus près de Jésus. C'est ça l'Église. À tour de rôle, l'Église doit être comme ça. Vous comprenez ? On ne peut pas être passif. Il faut s'engager. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a eu de plus ou de moins ? Elle a vendu son garage, elle devenait veuve. Elle a pris des sous pour vivre, elle reste. Elle se dit, j'en ai trop. Je vais servir Dieu de cette manière-là. Elle aurait pu dire, j'ai mes doigts crochus, plus j'en ai, plus je serai en sécurité. Puis je ferai mes petits voyages, j'irai voir le Yucatan au Mexique. Puis j'irai voir le Cambodge en avion. 5 fois par an, j'irai avec des compagnies de voyage. Mais non, elle n'a pas décidé ça. Elle s'est laissée faire, elle est montée sur le toit, elle a descendu une corde pour qu'un paralytique puisse connaître le Seigneur Jésus. Et le paralytique, ben c'était moi. Et vous ? À tour de rôle, nous sommes des paralytiques. À tour de rôle, nous sommes appelés à tendre des cordes et à descendre quelqu'un auprès du Seigneur Jésus. Ça, c'est la dynamique du royaume des cieux, qui ne frappe pas les regards, mais qui frappe les cœurs. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen.